par la Genèse, puisque on nous dit dans la Genèse que Enoch n'est pas mort, qu'il a été que Dieu l'a enlevé. Alors évidemment, c'est un peu mystérieux et ça a excité l'imagination créative de certains auteurs juifs, et donc ils ont essayé d'imaginer pourquoi, qu'est-ce qui s'était passé à l'enlèvement d'Enoch. Alors, donc on va broder sur le petit verset qu'on a sur Enoch, on va raconter toute une histoire. En gros, c'est ça que fait le livre d'Enoch. Et alors, cette histoire, elle va se greffer sur un autre épisode de l'Ancien Testament, c'est celui de Genèse 6:1-4, qui est très mystérieux, où on raconte, enfin très mystérieux, un peu bizarre, disons, on raconte que des fils de Dieu, peut-être des anges ou des dieux subordonnés, ont pris pour épouse des femmes. Et ça a donné une catastrophe, ça a donné des géants, et c'est à ce moment-là que la terre va se remplir de méchanceté et que ça va donner le déluge. Donc on va essayer d'interpréter aussi, de broder sur cet épisode. Alors le livre d'Enoch donc, nous dit que quand la méchanceté donc, se diffuse sur la terre, il y a quatre anges, Michael, Raphaël et Gabriel, ça vous les connaissez, mais il y en a un quatrième que vous ne connaissez peut-être pas, il s'appelle Sariel. Bon, c'est comme ça que le premier livre d'Enoch l'appelle. Et ces quatre anges vont intercéder auprès de Dieu au nom de l'humanité, puisque ça va très mal. Donc à cause des géants qui sont les Nephilim en hébreu, c'est les gigantes en grec, qui sont la descendance monstrueuse des anges avec les femmes. Donc la méchanceté se diffuse, ça va très mal, et les anges font un travail qui est typiquement le travail des prêtres, qui est d'intercéder pour l'humanité. Donc une prière en disant à Dieu, mais regarde, ça va très mal, fais quelque chose pour sauver l'humanité. Alors Dieu dit, bon, écoutez, puisque vous me le demandez bien poliment, je vais, ok, je me suis réservé quelqu'un, ça sera Noé, que je vais mettre de côté, puis tous les autres, on va faire un grand reset, et Noé sera le début d'une nouvelle humanité. Et alors du coup, il y a quand même une question, c'est les anges, qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'on peut bien noyer des hommes et des bêtes, les poissons, c'est déjà plus difficile de les noyer, et mais alors les anges, parce que les veilleurs, donc ce qu'on appelle les veilleurs, en fait, c'est ces fameux fils de Dieu qui sont assimilés à des anges, qui ont fauté, eux, qu'est-ce qu'on en fait? On ne peut pas les noyer. Alors, l'idée, c'est que y a les anges disent, bon, on peut peut-être essayer qu'ils fassent un temps de pénitence et qu'on leur pardonne. Donc, ils intercèdent aussi, les quatre anges dont j'ai parlé, pour ces fameux veilleurs. Et alors, Dieu dit, ben, eux, pas question. C'est trop grave, leur faute. Et les anges, à ce moment-là, disent à Enoch qu'il va falloir qu'il porte la mauvaise nouvelle à ces fameux veilleurs qui sont déchus, qui sont emprisonnés par Dieu. Alors, Enoch, il y va. Et pour porter cette demande, il entre dans un état visionnaire. Et à ce moment-là, donc, il va monter au ciel. Donc, vous voyez, la mort, c'est un petit peu compliqué, mais en fait, l'idée, c'est de trouver une explication, une légitimation de cette grâce un peu étonnante. C'est que Enoch n'est pas mort, mais il est monté au ciel. Mais en fait, il est monté au ciel pour recevoir de Dieu la sentence qu'il doit transmettre aux veilleurs, donc, ces fameux fils de Dieu qui ont fauté avec les femmes. Et c'est là qu'on tombe en plein dans une apocalypse, puisque le ciel s'ouvre, Enoch monte au ciel. Et il va apprendre des tas de choses assez mystérieuses sur les anges, sur le monde de Dieu et sur les desseins de Dieu. Et Enoch, donc dans le premier livre d'Enoch, Enoch nous décrit son rêve, enfin son rêve, mais qui est une extase en fait. Hein, et on nous dit qu'il s'est endormi, mais c'est un sommeil extatique, c'est un sommeil de visionnaire. Alors, ce qu'il raconte, c'est que le ciel, il dit, il possède... Donc, il est stratifié, et en fait, il va être stratifié, donc je vous l'ai dit, comme le temple, parce qu'il y a sept cieux qui correspondent donc aux sept zones de sainteté. Donc, il y a l'extérieur du temple, le parvis des païens, le parvis des femmes, le parvis des hommes, le parvis des prêtres, le saint et le saint des saints. Ça, c'est les degrés de pureté, enfin les degrés de sainteté dans le temple de Jérusalem, et les sept cieux donc correspondent à ça. Et Enoch donc monte, il va gravir tous ces cieux. Et puis, donc il va apprendre qu'il y a Michel, qui est le meilleur des anges, c'est celui qui est le plus proche de Dieu, parce que c'est lui qui est chargé de réaliser l'expiation sur la terre en même temps que le grand prêtre de Jérusalem le jour du Kippour. Donc là, on voit tout à fait le correspondant céleste d'un acte sacerdotal terrestre. Pour que les actes rituels qu'on pose dans le temple de Jérusalem aient, entre guillemets, une efficacité, la pensée apocalyptique a compris que ça pouvait pas, c'était pas automatique, il fallait que ça transite par un acte correspondant, mais qui est en fait le modèle parfait, le modèle céleste, de cette action terrestre. Et l'action terrestre du prêtre ne va être que à la fois le déclencheur et l'écho de l'action céleste qui a lieu en même temps. Il y a quelque chose d'un peu platonicien, en fait, hein, dans cette vision des choses, où, si vous voulez, si vous connaissez un peu Malebranche, ça ressemble un peu à la manière dont Malebranche comprend les sacrements. On fait quelque chose sur la terre, et puis au ciel, il se passe l'élément correspondant qui garantit l'efficacité du rite terrestre. Donc, on comprend que Michel, en fait, c'est le grand prêtre céleste, ou plutôt que le grand prêtre sur terre n'est jamais que l'écho, enfin la concrétisation imparfaite et terrestre du sacerdoce de Michel. Alors, tout ça nous permet de voir que dans ce premier livre d'Enoch, Michel, mais même tous les autres anges, ils ont tous des fonctions sacerdotales. C'est très clair pour Michel, puisque c'est le grand prêtre qui fait le kippour, mais même les autres, ils ont un rôle d'intercession, ils accueillent les prières des saints, ça c'est très important, des juifs, ça c'est très important comme fonction sacerdotale. Quand les juifs prient sur terre, un Israélite va au temple de Jérusalem, il offre un sacrifice, et puis il fait une belle prière en disant « Seigneur, prends pitié de moi et fais que ce que je souhaite arrive. » Il y a un ange, hop, qui est alerté, il récupère la prière et il va gravir les cieux, alors pas juste tout en haut, hein. Enfin, ça passe, il se passe un peu la main, il y a des relais, il y a des degrés, c'est très hiérarchisé cette histoire, mais de telle sorte qu'au bout d'un moment, cette petite prière, un peu comme une ligne téléphonique, elle finit par atteindre Dieu. Et puis alors après, Dieu, il dit, bon, ben, ok, lui, d'accord, je vais répondre ou je ne vais pas répondre, et ça redescend dans l'autre sens pour éventuellement avertir l'Israélite qui a fait sa prière, que sa prière a été entendu par Dieu. Vous voyez qu'on brode sur des épisodes de l'Ancien Testament, ou du Nouveau même, on peut penser à l'Annonciation. Hein, il y a un ange qui vient, ou à Zacharie, l'annonce à Zacharie, ta prière a été entendue, ta femme va concevoir. Bon, c'est un petit peu cette idée-là, sauf qu'on va nous dévoiler le mécanisme intérieur de cette transmission des prières de la terre au ciel. Et donc, c'est les anges qui font ça, mais qui agissent comme des prêtres. Bref, finalement, c'est simplissime cette histoire. Je ne sais pas comment j'ai fait pour passer 20 minutes à en parler. C'est que le ciel, c'est un grand temple stratifié par différents cieux, comme tous les parvis qu'on a vus. Et donc, l'excellence des habitants du ciel, qui sont essentiellement des anges, correspond à l'excellence, ou plutôt à la sainteté rituelle accessible selon les différents parvis. Et les modèles des prêtres, ce sont les anges. Finalement, beaucoup d'anges sont prêtres. Il y a quelques anges qui ont une autre fonction qu'une fonction sacerdotale, notamment tous ceux qui ont pour mission de réguler les phénomènes cosmiques. Mais ça, c'est plutôt les anges bas de gamme, hein, en fait. Mais les anges qui ont un peu gradé, ce sont des prêtres. Et pourquoi ils sont prêtres? Parce qu'ils ont accès à Dieu. Et plus vous êtes haut dans la hiérarchie sacerdotale, plus vous êtes proche de Dieu. À la limite, Michel, il y a des moments où il est presque identifié à l'ange du Seigneur et il est très très peu distinct de Dieu lui-même. Alors, il y a un autre écrit très intéressant pour nous, c'est le Testament de Lévi. Alors, il y a tout à fait cette même correspondance, mais traité, le héros, c'est plus Enoch, c'est Lévi. Dans le Testament de Lévi, l'idée, c'est de nous expliquer, c'est d'ancrer, c'est toujours pareil, c'est d'expliquer pourquoi le sacerdoce lévitique, donc qui est un sacerdoce terrestre, dérive d'un sacerdoce céleste. Et c'est très important parce que c'est ça qui garantit son efficacité. Vous voyez, aujourd'hui, si vous voyez un gars qui célèbre la messe, et puis on dit, ouais, c'est quelqu'un qui a bien regardé comment faisait le prêtre, mais il n'a jamais été ordonné, si vous êtes des bons catholiques, vous n'y croirez pas, en fait. Vous n'irez pas communier, vous n'irez pas vous confesser. Pour vous, ce qui garantit que la messe et que la parole du prêtre est absolument efficace, c'est le fait qu'il a été ordonné. Les sacerdotaux sont efficaces, c'est le fait que il a été investi par un prêtre céleste qui lui a transmis quelque chose de son sacerdoce. C'est exactement le but du testament de Lévi. En fait, Lévi va raconter son ordination, sauf qu'elle n'est pas Notre-Dame, mais elle est au ciel. Alors, c'est très rigolo, hein. Je vous invite vraiment à lire ces livres. C'est rigolo comme tout. Alors, dans le testament de Lévi, on détaille un peu différemment les sept cieux. Ça, c'est assez, assez amusant. Donc, alors, il y a Lévi qui monte, donc, puisque... alors, comment ça se passe ? Voilà, il tomba sur moi un sommeil. Voilà, ça commence toujours comme ça. Méfiez-vous quand vous vous endormez. C'est peut-être que vous êtes au début d'une extase apocalyptique, puisqu'on commence toujours par s'endormir. Il tomba sur moi un sommeil et je me tenais sur une haute montagne. Donc, ouais, il est en train de rêver, mais son rêve, c'est une extase. Et voici, les cieux étaient ouverts. Alors, énorme, les cieux ouverts, c'est vraiment, ça, c'est marque de fabrique de l'apocalyptique. Et un ange du Seigneur me dit, Lévi, entre. Oui, on croirait la panthéonisation de Jean Moulin. Donc, entre ici, Jean Moulin. Sauf que là, Lévi n'entre pas au Panthéon, mais c'est un peu l'équivalent finalement. Il entre aux cieux, dans le temple céleste. Donc il y a un ange qui dit, bah, Lévi, monte. Et j'entrais du premier ciel dans le deuxième, et entre l'un et l'autre, là, je vis l'eau suspendue. Donc il voit un réservoir qui explique pourquoi il pleut, c'est qu'il y a de l'eau au ciel. Alors ce n'est pas très intéressant. Enfin, c'est, bon, c'est intéressant, on voit que le premier ciel, ce n'est pas génial, c'est, ça explique simplement un phénomène cosmique. Enfin, entre le premier et le deuxième. Et au troisième ciel, là, c'est plus intéressant. Il y a une hauteur sans limite. Et alors, c'est là, je crois qu'au troisième ciel, on trouve les anges qui sont... Ah ben oui, c'est à nous expliquer plus bas, là. Le ciel le plus bas, c'est celui qui prend, comment dire, qui prend en charge les fautes des hommes. Le deuxième ciel, c'est celui qui gère les phénomènes cosmiques, le feu, la neige, la glace, et tous ces éléments qui vont être notamment utilisés pour les châtiments de Dieu. Quand Dieu veut punir Israël, il envoie du feu, de la neige, des choses comme ça. Donc les anges ici sont au taquet pour envoyer les éléments. Et dans le troisième ciel, il y a les armées. Donc ça, ce n'est pas des prêtres, en fait, c'est des soldats qui sont les armées, c'est Yahvé, enfin Adonai et Tsevaot, hein, c'est les armées célestes. Ils, eux aussi sont au taquet quand il s'agira d'aller faire la guerre au jour du Seigneur, aux esprits d'erreur et de combattre le démon. Donc, les trois premiers cieux, ils ne sont pas très sacerdotaux, en fait, hein, dans le testament de Lévi. Ce n'est pas comme chez Enoch. Et on nous dit, à partir du quatrième ciel, les cieux au-dessus sont saints. Donc, dans le testament de Lévi, contrairement à Enoch, le temple commence qu'à partir du quatrième ciel. Alors, dans le plus haut, il y a le Saint des Saints, dans le septième ciel. Dans le sixième, il y a les anges de la face. Alors, c'est ceux qui correspondent dans le sein du temple. Vous savez, il y a la menorah, il y a une table des pains de proposition qu'on appelle parfois les pains de la face. Et il y a un encens, avec un autel de l'encens, pardon, je suis fatigué, je dis n'importe quoi, il y a un autel de l'encens qui représente les prières d'Israël. Alors dans le judaïsme, on a interprété les lumières de la menorah comme représentant les anges qui font que l'encens matériel qui brûle sur l'autel de l'encens et qui symbolise la prière d'Israël, hop, on donne un petit coup de pouce. Et ça arrive jusqu'à Dieu. Donc ça, c'est le boulot des anges de la face. C'est des anges très, très gradés. Hein. Ils sont sept. Il n'y en a pas un de plus. Et c'est vraiment, c'est des généraux. Hein. C'est plaise à Dieu qu'un jour, je devienne ange de la face. Hein. Pour moi, ça serait une grande promotion sacerdotale. Alors, ils font propitiation pour les ignorances des justes. Et au cinquième ciel, il y a les anges qui portent les réponses auprès des anges de la face de Yahvé. Donc eux, ils font un peu le pont entre le ciel et la terre. Et au quatrième, il y a les trônes et les puissances. Alors, c'est pas mal, mais c'est quand même des prêtres un peu bas de gamme. Eux, leur but, c'est simplement d'offrir à Dieu en permanence des hymnes. Vous voyez, la musique n'est pas tellement... c'est très bien les chants, mais la propitiation et l'intercession, c'est mieux comme office sacerdotal. En gros, c'est la chorale. Hein, c'est... enfin, comme c'est au temple, pour chanter dans le temple, il faut quand même être déjà prêtre. Hein, c'est pas... Voilà dans le testament de Lévi. Alors, Oui, alors, dans le testament de Lévi, donc à un moment donné, alors Lévi raconte son ordination. Je vis sept hommes d'un vêtement blanc. Alors, les sept hommes, c'est les anges de la face. Hein, donc, c'est du très très haut. Hein. Le Lévi, il a du lourd. Hein. Les sept anges de la face vont lui transmettre leur sacerdoce. Ils lui disent lève-toi, mets la robe du sacerdoce et la couronne de justice et le bustier de compréhension et le vêtement de vérité, le bandeau de foi et la tiare du miracle et les fautes de prophétie. Vous voyez, on est en train de décrire l'habit du grand prêtre comme on a en Exode 28 en interprétant, en disant mais l'éphode, on ne savait pas très bien à quoi ça sert. En fait, l'éphode, on y met des sorts, Enfin, c'est de la divination. Je ne vais pas rentrer dans cette histoire. Et paf, on va dire, mais là, c'est la prophétie. Donc, le grand prêtre sera prophète. Rappelez-vous l'évangile de Jean où on dit que Caïphe avait dit « Il vaut mieux qu'un homme ne meure parce que, et que le, pour sauver le peuple. » Car il était, Saint Jean commente, car il était grand prêtre cette année-là. C'est typiquement apocalyptique. Vous voyez, on va, il reçoit le grand prêtre et prophète par participation aux anges bah, qui sont prophètes parce qu'ils entendent tout qu'est-ce que Dieu il dit. Hein. Ils sont les anges de la face, surtout là, c'est, ils sont juste en dessous, ils entendent tout. Et puis, à partir de maintenant, lui disent les anges, deviens un prêtre du Seigneur, toi et ta descendance pour toujours. Et le premier me oignit d'huile sainte. La prochaine fois que vous irez à une ordination, donc peut-être en 2028 ou en 2029, soyons optimistes, quand le confinement sera terminé, vous verrez, en fait, quand on, les rites d'huile et de transmission, des, la correction des instruments, finalement, vous pourrez penser au testament de Lévi et dire, mais l'évêque est un ange et est en train de oindre... de oindre Lévi pour qu'il participe à son sacerdoce. Le deuxième me lava d'eau pure et me nourrit de pain et de vin. Alors, c'est du pain et du vin consacré. Hein. Les plus saintes choses. Vous voyez, c'est quasiment la messe, là. Hein. C'est très beau. Et m'attribua une sainte et glorieuse robe. On lui remet la chasuble. Le troisième me vêtit d'une veste de lin. Alors là, c'est un peu bizarre. Parce que c'est comme s'il avait la veste de lin, c'est l'aube, mais alors elle est au-dessus de. Elle n'est pas dans le bon ordre. Hein. Non, on met d'abord l'aube, ensuite la chasuble. Le quatrième mit autour de moi une ceinture, alors ça serait l'étole. Ouais, c'est... Le cinquième me donna une branche d'olivier, alors ça par contre on n'a pas. Hein. Le sixième plaça une couronne sur ma tête, alors ça je crois qu'on n'a pas non plus, mais enfin on pourrait penser à les évêques, là, leur truc. Là, leur... Et le septième plaça sur ma tête le diadème du sacerdoce, où le grand prêtre avait un diadème où il y avait le nom du Seigneur, et remplit mes mains d'encens. Ouais, ça c'est la correction. Alors pourquoi les mains d'encens? Parce que l'encens c'est un sacrifice beaucoup plus... comment dire, bien plus digne que l'offrande de la, des bêtes. Offrir de la nourriture, c'est pas mal, mais ça se fait sur le parvis des prêtres, c'est des prêtres ordinaires, et puis c'est sanglant, enfin c'est un peu... Bon. L'autel de l'encens, il est très supérieur en dignité à l'autel des holocaustes parce qu'il est dans le saint, donc il est plus proche du saint des saints, donc il est plus proche de Dieu. Alors Lévi, évidemment, on ne va pas lui mettre un gigot, ça ne serait pas assez digne, on lui met de l'encens. Donc le septième plaça sur ma tête, remplit mes mains d'encens, que je serve ainsi de prêtre au Seigneur. Voilà. Donc les anges sont prêtres, et non seulement les anges sont prêtres, non seulement le sacerdoce terrestre est une espèce de correspondant imparfait, mais enfin c'est déjà pas mal, du sacerdoce angélique, mais mieux que ça, il faut qu'il y ait une transmission effective du sacerdoce céleste au sacerdoce terrestre, et finalement, c'est ça qui vient légitimer l'Apocalypse, puisque c'est ça qui vient légitimer qu'un homme reçoit une faveur absolument démesurée, c'est-à-dire il vient se mêler temporairement aux anges, parce que pour recevoir l'ordination, il faut bien qu'à un moment donné, des anges, il faut ben, c'est pas les anges qui vont aller faire les guignols dans le temple de Jérusalem. Donc hop, temporairement, Lévi reçoit donc une Apocalypse. Vous voyez, quand on dit « je monte aux cieux », hein, il y a quelque chose, tout de suite, on dit, ah, mais le gars, qu'est-ce qu'il va recevoir comme office sacerdotal au ciel? Donc, vous voyez, le schéma apocalyptique du culte, il se complexifie et il se précise. Et les deux sont... Enfin, il y a plein de choses à dire. Enfin, évidemment, j'espère que ça vous fait plein de connexions sur la manière dont nous, les catholiques, nous représentons le culte, parce qu'en fait, dans vos têtes, vous devez vous dire, mais en fait, celui qui joue le rôle à la fois de ciel et d'ange, c'est le Christ. Ça, c'est en gros ce que fait l'Épître aux Hébreux. Il transfère la pensée apocalyptique, non pas dans une apocalypse, parce que l'Épître aux Hébreux, ce n'est pas du tout une apocalypse, mais c'est plein de la pensée apocalyptique. Mais le ciel, ou en tout cas le grand prêtre angélique qui serait Michel, on nous dit que ce n'est pas Michel le grand prêtre qui permet aux hommes d'avoir un sacerdoce efficace, c'est le Christ. Et ce qui permet au Christ d'être grand prêtre, ce n'est pas son excellence ontologique, ce qui serait le cas de Michel, j'emploie un vocabulaire qui est grec et pas du tout biblique, excusez-moi, mais c'est pour me faire comprendre. Michel, il n'a rien à faire pour être prêtre que d'être lui-même. Il est ange, donc son job, c'est comme les anges de la face, c'est les mecs qui ont tiré à la grande loterie. À la grande loterie de la création, il y a des gens qui ont tiré les bons numéros, Michel, Sariel, enfin tous les types dont je parlais, eux, ils ont tiré le bon numéro. Il y en a d'autres qui ont tiré des mauvais numéros. Donc, voilà, les types, ils sont que évêques sur terre ou Aaron. Il y a encore des plus mauvais numéros, c'est être troisième vicaire à Saint-Germain-des-Prés. Et puis encore un plus mauvais numéro, c'est d'être laïc. Dans cette pensée très hiérarchisée, juive, attention. Hein, parce que chez les chrétiens, justement, il y a un renversement dans l'Apocalypse, l'Épître aux Hébreux, les laïcs se retrouvent au-dessus des anges. Alors, ouais, on ne s'y repère plus. Alors, l'Épître aux Hébreux, justement, va prendre cette pensée apocalyptique, mais de dire le grand prêtre, il ne l'est pas par une perfection ontologique, c'est-à-dire, c'est même pas parce qu'il est fils de Dieu désincarné, si vous voulez, qu'il est grand prêtre, c'est parce qu'il est mort et ressuscité. Vous voyez, ça, c'est vraiment génial. Hein. C'est vraiment prodigieux. C'est-à-dire que la perfection du sacerdoce, on en rend compte dans l'Épître aux Hébreux à travers une pensée apocalyptique, mais pas du tout dans une apocalypse. C'est-à-dire que jamais l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « Je me suis endormi » et puis j'ai entendu une voix qui me disait « Jean Moulin, monte ici, je te donne la tiare et l'encens du prêtre. » Donc, pas du tout. On va dire que le grand prêtre, nous avons un grand prêtre, c'est Jésus-Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice pour le salut des hommes. Et donc, ce qui vient habiliter la perfection du sacerdoce n'est plus le sacerdoce angélique qui est au 6e ou au 7e ciel, c'est quelque chose qui s'est passé sur la terre. Bon, donc c'est vraiment. Alors, vous voyez, pour comprendre l'Épître aux Hébreux et toute cette espèce pas de polémique, mais disons, on parle des anges, les deux premiers chapitres de l'Épître aux Hébreux, où on dit les anges, c'est très bien, mais ce n'est quand même pas les anges qui nous sauvent, et auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit tu es mon fils, et enfin, tous ces trucs-là, en fait, on voit bien que ce que ça conteste très fortement la vision sacerdotale de l'apocalyptique, mais tout en la reprenant et en la transposant au Christ et à sa croix. Alors, il y a encore un pas de plus, ça c'est dans le deuxième livre d'Enoch, qu'on appelle parfois le livre des secrets d'Enoch, donc qui vient encore broder, alors ça brode sur le premier livre d'Enoch. Je suis obligé d'aller très vite, mais ce qui est intéressant dans le deuxième livre d'Enoch, c'est que là, on est en train de dire, ce qu'on faisait dans le testament de Lévi, à propos de Lévi, on va le faire pour un autre sacerdoce un peu bizarre qui apparaît dans la Bible, qui est le sacerdoce de Melchisédek, qui apparaît en Genèse 14, parce que Abraham, on nous dit qu'il a offert la dîme de tout à Melchisédek, qui est roi de Chalem. Alors, on ne sait pas très bien, c'est très très rapide en Genèse 14. On va broder dans le deuxième livre d'Enoch. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on nous dit que Enoch, contrairement à ce qu'on a dans le premier livre d'Enoch, où le pauvre Enoch, il prend l'ascenseur pour aller au ciel, il entend Dieu qui dit les veilleurs, je ne vais pas leur pardonner. Et donc, ils vont avoir une prison même un peu souterraine. Donc, c'est vraiment la déchéance pour des anges. Et c'est toi qui vas leur annoncer la mauvaise nouvelle. Donc, il redescend. Dans le deuxième livre d'Enoch, Enoch ne redescend pas. Il reste au ciel et il va. Alors, c'est un peu compliqué. Hein. Il va recevoir la perfection du sacerdoce. Il va se transformer en ange, en fait. C'est ça qui est un peu bizarre. Il va lui dire, puisque tu vas rester au ciel, et que contrairement, ça c'est moi qui dis, hein, contrairement à ce que tu as fait dans le premier livre d'Enoch, et à Lévi qui était monté aux cieux temporairement pour recevoir le sacerdoce, puis qui était redescendu sur terre, Enoch, il va rester en permanence au ciel. Mais alors, du coup, il ne peut pas rester homme en permanence au ciel. Et donc, il va se transformer en ange. Ça ne colle pas du tout avec l'angélologie de saint Thomas d'Aquin. Il faut oublier tout ça dans l'apocalyptique juive. C'est beaucoup plus... La frontière entre les hommes et les anges, elle est très perméable. On devient temporairement un ange dès qu'on s'approche de Dieu, mais même si on reste en permanence auprès de Dieu, un homme devient un ange, purement et simplement. Et ça devient un ange très très haut gradé, hein, quasiment au-dessus de Saint-Michel. Enoch, c'est du très très lourd hein, dans le deuxième livre d'Enoch. C'est lui qui reçoit la perfection du sacerdoce, mais il reste aux cieux. Et alors, il va appeler un descendant de... un frère de Noé, mais qui est inconnu dans la Bible, qui s'appelle Ner. Il va lui transmettre le sacerdoce, et le petit-fils de Ner va s'appeler Melchisédek. Alors, tout ça n'est pas du tout dans l'Ancien Testament, mais on comprend que Melchisédek va recevoir le sacerdoce d'Enoch, que c'est un sacerdoce qui est supérieur au sacerdoce de Lévi, parce que Lévi, certes, il est monté au sommet, mais après, il est redescendu sur terre pour exercer son sacerdoce, alors que cette fois, le lien entre Enoch, qui est un homme promu au rang d'ange, et Melchisédek, il devient permanent, puisqu'il y a une relation de descendance entre les deux. C'est le sacerdoce de Melchisédek. Alors là encore, Si vous avez lu le deuxième livre d'Enoch, il y a des tas de choses qui deviennent très claires dans l'Épître aux Hébreux, notamment le chapitre 7. Toute cette espèce on ne sait pas très bien pourquoi il nous parle de Melchisédek. Il nous dit, mais en fait, le sacerdoce de Melchisédek, il est supérieur au sacerdoce lévitique, puisque Lévi était dans le sein d'Abraham quand il a payé la dîme à Melchisédek. Et donc, d'une certaine manière, Lévi s'est humilié devant Melchisédek. Et puis on nous dit, bah en fait, le sacerdoce de Melchisédek, c'est le sacerdoce du Christ. Oui, alors là, moi, je suis convaincu que l'auteur de l'Épître aux Hébreux avait lu le deuxième livre d'Enoch. Alors vraiment, ça, j'en suis tout à fait persuadé. Et donc, il dit, mais en fait, arrête, oublié, toujours pareil, hein, il va à la fois contester le deuxième livre d'Enoch, mais en reprenant sa pensée, il reprend l'idée que le sacerdoce de Melchisédek est plus excellent que le sacerdoce lévitique. Mais astucieusement, au lieu de se baser sur des légendes avec un petit-fils inconnu de Noé, enfin bon, des histoires, il va dire, mais allons voir le psaume 110, « Dixit dominus domino meo celeste cede ad extremei », donc le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Siège à ma droite et je ferai nonec ponam inimicos tuos scabellum tuorum », un truc comme ça, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis le marchepied de ton trône. Il dit cette phrase-là, quand est-ce qu'elle a trouvé sa vérité? Quand Jésus, à l'ascension, est monté s'asseoir à la droite de Dieu. Et comme à la fin de ce psaume, on dit « Tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melchisédek », l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « Oubliez ces fadaises du deuxième livre d'Enoch », sauf qu'en fait, il y a quand même pris des tas d'idées sur le sacerdoce de Melchisédek, et dit « Le sacerdoce de Melchisédek, c'est le sacerdoce du Christ qui correspond à la résurrection et à l'ascension de Jésus. » Je suis allé beaucoup trop lentement. C'est pas grave. Si vous avez tout ça en tête, il y a plein de choses qui s'éclairent dans l'Épître aux Hébreux, mais aussi dans l'Apocalyptique. Pourquoi on monte aux cieux? Pourquoi on nous parle d'un autel? Cet autel, par exemple, dans l'Apocalypse de Saint Jean, quand on vous parle...
Ça marche.
Voilà. Vous êtes formidable. Vous êtes aussi rapide que moi. Donc... vous lirez l'Apocalypse, vous l'avez déjà lu, vous verrez qu'on parle d'un autel, qu'on parle d'une tente, ce qui est né, on parle évidemment de chants. Donc la liturgie cultuelle, elle est omniprésente dans l'Apocalypse. Ça ne doit pas vous surprendre, ça c'est très très commun à l'apocalyptique. Évidemment, ce qui est plus original, un peu comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui nous dit « Notre grand prêtre, c'est Jésus », l'équivalent du grand prêtre, là pour le coup, c'est plutôt l'animal, c'est l'agneau. Ça, c'est original, vous voyez, c'est l'agneau qui est à la fois berger et grand prêtre dans l'Apocalypse. Et puis toute la théologie du martyr, ça c'est très intéressant, puisque dans le millénium, on nous dit qu'il y aura un sacerdoce réservé aux martyrs. Je suis curieux de voir ce que c'est. Que le Seigneur me fasse la grâce de l'exercer, d'ailleurs, ça veut dire que j'aurais été martyr. Mais enfin, c'est ouvert à tout le monde. Ça n'a pas a priori de rapport avec le sacerdoce hiérarchique et ministériel. Donc, avec cette pensée en tête, beaucoup de choses. Alors, l'autel, tiens, oui, ce que je voulais vous dire, c'est que quand on vous parlera d'un autel, à plusieurs reprises, on parle d'une voix qui sort de l'autel. On vous dit, il y a les âmes des martyrs qui sont sous l'autel et qui disent à Dieu, mais jusqu'à quand tu tardes à nous faire justice? Cet autel, c'est évident que c'est l'équivalent céleste, non pas de l'autel des holocaustes, lui, il n'est pas au ciel, mais de l'autel de l'autel de l'encens qui est dans le sein. Bon, et puis tout ce qu'il y a sur les chandeliers, enfin vraiment, alors, et puis toutes les robes, quand on vous décrit les robes brillantes, quand on vous décrit la couronne, on vous parle de la couronne, tout ça, évidemment, ça doit la robe de lin, tous ces trucs-là, vous devez dire, mais on parle sans cesse, les anges apparaissent comme des prêtres dans l'Apocalypse, ça c'est vrai, ça c'est indéniable, et au-dessus d'eux, il y a l'agneau. Alors, maintenant, deuxième partie de mon exposé, je serai un peu plus rapide, dans 5 minutes, on va reprendre, en ayant en tête toute cette symbolique cultuelle de l'apocalyptique, le plan et donc la dynamique de l'apocalypse. La première chose à ne pas rater dans l'apocalypse, c'est les deux parties. Enfin, les deux plus grandes parties. Les deux parties. Il y en a un qui tape très fort sur son clavier. Mais il a bien raison, comme ça on est sûr que ça s'inscrit sur l'écran. Alors, les deux premières parties, donc c'est la première partie, c'est les chapitres 1 à 3, et la deuxième partie, c'est les chapitres 4 à 22. On peut isoler une toute petite introduction qui serait les trois premiers versets de l'Apocalypse. C'est les versets 1-3 du chapitre 1. Il y aura un prologue. Et puis, il y a un épilogue, alors là, qui est plus repérable et qui est un peu plus long et un peu plus compliqué d'ailleurs. C'est le chapitre 22, les versets 6 à 21. Mais si je vire le prologue et l'épilogue, j'ai deux grandes parties. C'est les chapitres, disons, 1-3 et les chapitres 4-22. Alors, il y a d'assez bons arguments, enfin moi je suis assez convaincu par ça, que ça correspond à deux strates de rédaction de l'Apocalypse, mais par le même auteur. Bon, c'est la thèse notamment d'un spécialiste de l'Apocalypse de Saint Jean qui s'appelle Pierre Prigent, et je trouve que c'est vraiment excellent ce qu'il écrit. Donc je vous conseille la lecture de Prigent. Il dit qu'il y aurait eu d'abord les visions, et le récit des visions, c'est-à-dire les visions célestes, c'est-à-dire la deuxième partie qui est la plus longue, les chapitres 4 à 22. Et puis que devant le succès de ces visions, qui s'étaient lues donc dans les églises, notamment en Asie, hein, puisque tous ces trucs-là, il semble que l'auteur qui est exilé à Patmos est lié aux églises d'Asie, Laodicée, Sardes, Philadelphie, je ne sais plus tout par cœur en tête, mais il a voulu corriger, enfin plutôt complémenter ou compléter son récit, non plus par des visions célestes, mais par quelque chose qui va anticiper les visions célestes et qui reçoit sa force rhétorique des visions célestes, qui sont les lettres aux sept communautés. Donc ça serait dans une deuxième étape, il y aura une deuxième phase où l'auteur va rajouter donc les lettres, les sept lettres, donc c'est chapitre 2-3. Et c'est là d'ailleurs que l'épilogue va aussi recevoir des compléments pour que ça colle mieux à la totalité du livre. Donc, bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? En tout cas, c'est pas mal de connaître cette hypothèse. Ça rappelle au moins que dans l'Apocalypse, il y a deux parties, avec à chaque fois des paroles divines. Mais enfin, il y en a qui sont vraiment sur un mode apocalyptique, c'est-à-dire que ça a lieu au ciel, c'est une vision céleste. Et on a eu au début du chapitre 4, Jean Moulin entre ici, donc monte aux cieux. Ah oui, d'ailleurs, c'est Jean, tiens, c'est marrant, l'Apocalypse de Saint Jean. Jean Moulin, donc où il y a vraiment le code, la phrase, on ne peut pas la rater. Hein, c'est Jean 4, je vais la voir, donc Jean 4, Jean 4, Jean, l'Apocalypse, chapitre 4, verset 1. Après cela, je vis une porte était ouverte dans le ciel, la première fois que j'avais entendu me parler, telle une trompette, dit « monte ici ». Bon, vraiment, si vous n'avez pas repéré que c'est une apocalypse, faut se cantonner à Tintin. Hein. Voilà, là, c'est vraiment très, très clair. Donc, il y a la deuxième partie, c'est un message divin, mais qui est apocalyptique, alors que la première partie, c'est des lettres. Mais c'est des lettres un peu particulières auxquelles l'auteur a voulu donner la plus grande autorité parce qu'elles sont adossées à une vision, mais qui n'est pas apocalyptique au sens strict, puisqu'elle a lieu sur la terre. Vous voyez, c'est un peu la différence entre la vision du chapitre 1, qui a lieu sur la terre, il est à Patmos, il entend une voix, il se retourne, alors il y a quand même des choses bizarres, hein, donc on peut quand même lui faire un petit test anti-doping, parce qu'il voit quand même des choses très bizarres, mais c'est une vision terrestre, donc ce n'est pas apocalyptique. Et alors, en fait, il voit le Fils de l'homme, on comprend que c'est Jésus crucifié, ressuscité, il y a plein de codes lié à Daniel 7, je ne peux pas vous décoder tout ça, mais c'est dans les notes de vos Bibles. Hein. Et il lui dit, à l'ange de l'église d'Asie, de l'église d'Éphèse, écrit, à l'ange de l'église de Laodicée, écrit, etc. Donc, il transmet, mais dans les lettres, quand vous voyez les lettres, vous devez, et que vous lisez ensuite les visions, vous voyez qu'il y a plein d'anticipations des visions. Et donc, dans les communautés, maintenant, on va lire les lettres, et puis, alors, on est déjà un petit peu impressionné, surtout que ces lettres, en gros, elles disent que vous êtes en train de devenir tiède, quoi, ça va mal se passer, vous tolérez des choses insupportables, faut vous reprendre, les gars, sinon ça va mal être barré. Et on dit pour qui il se prend ce gars qui n'est pas apôtre, qui n'est pas, qui est rien du tout, c'est juste un gars qui prétend avoir des visions. Et puis, on lit les visions, et après, total respect, parce que quand on s'est chopé les 16 chapitres des visions, et bon, faut y croire un petit peu, et qu'on se dit, mais le mec qui nous met en garde en disant « Jésus m'a dit, écrit à l'église de Laodicée, ça va chauffer pour vos oreilles », et qu'on apprend que ce mec-là, il est allé, il a été au ciel, qu'il a entendu l'agneau chanter un chant nouveau que personne ne peut chanter, qu'on lui a révélé des choses qu'il n'a pas le droit de révéler, qu'il connaît tout sur les successions des âges qui, avant la fin des temps, qu'on lui a montré la chute de Babylone. Enfin, et ils disent, mais ce gars-là, c'est peut-être pas un apôtre, mais c'est un type, quand les gens de 100 kilos disent certaines choses à ceux de 60 les écoutent, pour parodier Audiard. Donc, quand un paroissien obscur à Laodicée entend un visionnaire comme Saint Jean lui dire ce qu'il a vu dans les chapitres 4 à 22, et ben, du coup, il est attentif à ce qu'il dit dans les lettres en 2 et 3. Ça serait ça le mécanisme rhétorique de l'Apocalypse. Donc, la première vision, j'en ai parlé, donc c'est la vision du Fils de l'homme. Et quand vous regardez la vision, le Fils de l'homme apparaît comme revêtu, et c'est vraiment dans Daniel 7, hein. Alors qu'on est dans une période de persécution d'Antiochus Épiphane dans Daniel et de Domitien dans l'Apocalypse de Saint Jean, le Fils de l'homme apparaît avec l'autorité, une autorité totale sur le monde, y compris donc le monde où la persécution se déchaîne, par sa mort et sa résurrection. Ça reprend beaucoup à la dernière parole de Jésus en saint Matthieu. Tout pouvoir m'a été donné au ciel, kai epitesges. C'est ça qui est important, hein. C'est pas que sur le ciel, c'est-à-dire que l'autorité de Jésus, c'est pas que quand vous faites oraison, c'est pas que dans votre âme, il a autorité sur terre, c'est-à-dire sur les rois terrestres, y compris quand ils vous font du mal. Et ben, en réalité, ils sont peut-être pas mandatés par Jésus, ça serait un peu fort de café, mais en tout cas, c'est contrôlé par Jésus, c'est pas hors de contrôle. Puis viennent les lettres aux églises, alors ça, je vous les lirai, mais en gros, c'est faites gaffe, quoi. Vous êtes en train de devenir tiède, voilà, je vous les résume. C'est moins percutant quand c'est moi qui le dis, mais l'essentiel du message, c'est tu es tiède et c'est pas bien d'être tiède. L'essentiel du message, c'est OK, ça va très mal. On est en train de crever parce que les flics de Domitien nous prennent nos attestations, on ne peut plus aller à la messe. Et puis à l'intérieur de l'église, il y a plein d'hérésies gnostiques qui se développent. Donc ça va très très mal à l'extérieur, ça va très mal à l'intérieur. Super chouette, youpi, on va mourir martyr comme Jésus, mais simplement faut pas être tiède. Je vous ai résumé le message de l'Apocalypse en fait, hein. C'est très très simple, c'est youpi, tout va très mal et donc on va mourir martyr, c'est génial. Mais il faut pas être tiède. Si vous êtes tiède, vous finirez par apostasier normalement. Alors ensuite, il y a comme de même que la vision terrestre. Engendre les sept lettres. Il y a une première vision très importante dans la partie vraiment apocalyptique, donc à partir du chapitre 4, c'est la vision de la Trinité, enfin la vision de la Trinité en fait, hein, dans les chapitres 4, 5. Et il y a quelque chose de très important qu'il ne faut pas rater, c'est qu'il y a une intrigue. Alors j'ai l'impression de vous avoir déjà dit ça, peut-être je me répète, et comme vous ne pouvez pas parler, peut-être que vous êtes déjà fatigué de ce que je vous dis, peut-être je me répète, mais il y a une grande intrigue à ce moment-là, c'est le sens, c'est l'accomplissement de l'ancienne alliance. Parce que l'intrigue, c'est que il y a les quatre vivants qui représentent tout le cosmos, les 24 anciens, je ne peux pas entrer dans les détails, mais ils représentent les saints de l'Ancien Testament, c'est-à-dire tout ce que l'ancienne alliance a produit de meilleur. Et tous ces mecs-là, c'est-à-dire les quatre animaux et les 24 anciens, ils voient le livre scellé, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Il est scellé, c'est-à-dire qu'on voit l'extérieur, mais pas l'intérieur. Donc, en gros, on comprend que la moitié, donc on ne comprend rien. Et il pleure parce que, et l'ange et Saint Jean aussi, il pleure surtout. Hein. Personne ne peut ouvrir le sceau. Et du coup, on se dit, mais finalement, le dessein de salut de Dieu expliqué dans l'Ancienne Alliance, on n'y a pas accès, on n'y comprend rien, c'est raté. Et voilà que l'agneau, alors je vis l'agneau comme immolé, et cet agneau, comme immolé, donc c'est évidemment Jésus, il est debout en position glorieuse, mais comme immolé, il porte encore les marques de la passion. Et là, il y a un phénomène très récurrent dans l'Apocalypse, c'est-à-dire que l'auteur de l'Apocalypse transfère à l'agneau les attributs divins. Il partage le trône de Dieu. On le décrit comme l'Ancien des Jours qui est Dieu en Daniel 7. Sa chevelure, c'est comme la laine. Il a une barbe blanche, il a une robe de lin. Enfin, bref, le texte, il y a un texte. Il faut vraiment être aveugle et inculte ou incompétent pour prétendre, comme certains dont je tairai le nom, qui vendent des milliers de bouquins pour prétendre que la divinité de Jésus a été inventée à Nicée au IVe siècle pour soutenir l'idéologie impériale. Il y a vraiment l'Apocalypse de Saint Jean, elle vous hurle dans les oreilles la divinité du Christ, mais de toutes les manières possibles. C'est Nicée, c'est vraiment homoousio, ça, vraiment, ça, on y a. Simplement, ce n'est pas Nicée par dogme, avec homoousios, avec un vocabulaire technique de la philosophie. enfin un peu technique, c'est Nicée, mais avec des visions. D'où cette formule d'André Paul, dont je vous ai déjà parlé, que j'aime beaucoup. La formule, c'est le dogme, c'est la vision devenue formule. Mais c'est vraiment la même chose. Tout le dogme christologique, en fait, il est dans l'Apocalypse. C'est le texte le plus dogmatique que je connaisse, sauf que c'est doctrinal, disons. C'est le texte le plus doctrinal, sauf que c'est une doctrine qui s'exprime par vision. Alors, il faut être un peu malin pour décoder, mais ce n'est pas si compliqué que ça. C'est une vision doctrinale, mais qui s'exprime par des images symboliques et pas par des concepts philosophiques. Mais au niveau de la foi, on s'en moque. Ce qui compte, c'est de croire que Jésus est Dieu. Ce n'est pas d'utiliser homoousios. Si je dis qu'il a une grande barbe blanche et qu'on comprend que c'est la même chose, c'est ça qui compte. Alors, cet agneau, il est comme immolé, c'est-à-dire qu'il partage le trône. C'est ça qui est génial, non pas seulement au titre de sa divinité, mais alors même dans son humanité qui a traversé la mort. Finalement, c'est assez proche de l'Épître aux Hébreux. Et lui, il peut ouvrir les seaux, c'est-à-dire ce qui n'était pas accompli ni par le cosmos, c'est-à-dire entre autres pas par les religions païennes qui célèbrent le cosmos, ni par le culte de l'Ancien Testament. Ça, c'est un peu plus surprenant parce que c'est quand même un culte révélé, mais même ça, ça ne suffit pas, mais les meilleurs de l'Ancien Testament ne comprennent pas l'Ancien Testament. Ils ne peuvent pas l'expliquer. Seul l'agneau immolé, comme immolé, mais debout sur le trône de Dieu au ciel, lui peut ouvrir les seaux. Donc, autrement dit, affirmation très, très centrale dans le Nouveau Testament, le Christ accomplit l'Ancien Testament. C'est ça que ça nous dit, en fait. Hein. Le sens de l'Ancien, il vous est dévoilé dans le Nouveau, par la mort et la résurrection du Christ. Ça ne nous dit pas autre chose. Mais ça le dit sacrément bien, puis ça le dit par des visions, alors ça impressionne les gens. Saint Jean lui-même était impressionné d'ailleurs. Et alors, il ouvre les seaux, vous voyez, c'est-à-dire que le dessein de salut de Dieu qui est dans l'Ancien Testament, là il y a un effet d'annonce, alors je ne dis pas que c'est très subtil, hein, mais ça marche, c'est efficace, c'est comme dans les bons films, les bons westerns. Au fur et à mesure que les seaux vont être ouverts, évidemment, notre attention est aiguisée, puisqu'on se dit, on se rapproche, on se rapproche, on se rapproche. Bientôt, on connaîtra la totalité de l'Ancien Testament. Donc, voilà pourquoi les sept seaux, ce premier septénaire, va commander, en nous dévoilant l'accomplissement du salut, est censé nous ouvrir progressivement l'intelligence de tout l'Ancien Testament, puisque, au fond, quand vous connaissez la fin de l'histoire, vous avez compris toute l'histoire. Dans l'Apocalypse de Saint Jean, on nous raconte les cinq dernières minutes du film. Sauf que le film, ça fait 2000 ans qu'il dure, puisque c'est toute l'Ancienne Alliance. Mais le pari de Saint Jean, c'est que vous êtes suffisamment malin pour, connaissant les cinq dernières minutes, ben vous relisez l'Ancien Testament et tout devient clair. Vous voyez, la connaissance de la fin éclaire tout ce qui précède, mais on nous dit J-5, J-4, J-7, si vous voulez, plutôt, puisqu'il y a sept sceaux. Alors, dans le premier septénaire, en fait, ça reste assez tranquille, parce qu'il y a des... Il y a des châtiments de Dieu qui annoncent. Donc, en gros, dans l'Apocalypse, on ne fait que nous décrire le jugement dernier et ce qui précède, donc, et la venue du Seigneur. Le Seigneur vient, ça, on nous dit « Monte ici, je vais te décrire ce qui va venir par la suite. » Et puis, l'épilogue de l'Apocalypse, c'est « Amen, je viens bientôt. » Donc, on nous parle de la parousie et du jugement dernier. Il y a des méchants de gens qui disent « L'Apocalypse ne nous parle pas de ça, c'est faux. » Vraiment, ça, j'y crois pas du tout. Ça nous parle du jugement dernier, de la parousie, mais ça nous parle aussi de ce qui précède immédiatement dans l'histoire. Et deuxième étage de la fusée, ça nous parle aussi de l'anticipation de cette venue dans la liturgie chrétienne. Parce que l'idée de l'Apocalypse, c'est que les événements, les soubresauts de l'histoire, mais surtout la victoire du Messie à la fin des temps, et le jugement de Babylone et des méchants, et la victoire des martyrs, au fond, on n'a même pas besoin d'attendre que ça arrive dans quelques jours, puisque ça va arriver bientôt, on l'a déjà quand on va à la messe. Donc, il nous parle de l'eschatologie pour elle-même et en tant qu'elle est anticipée dans le culte chrétien. Alors, je n'ai pas le temps de vous expliquer ça, mais là, il y a Pierre Préjean qui a écrit une étude géniale qui fait 80 pages. Donc, c'est vraiment... qui s'appelle Apocalypse et sacrement, ou un truc comme ça, je ne sais pas. Enfin, il montre ça merveilleusement avec la typologie pascale, la typologie de l'agneau, parce qu'il y a plein de reprises. Mon truc est complètement confus. Hein. Pardon, je suis désolé. En fait, je suis en train de faire une session biblique où je fais cours 6 heures par semaine, tous les jours, depuis 2 semaines, depuis 10 jours. Je suis fatigué. Ça crève de faire cours 6 heures d'affilée tous les jours. Donc, je suis très confus, excusez-moi. Le premier septénaire, il nous parle du jugement et de ce qui précède, en des termes encore assez généraux. Et il y a une insistance sur le fait qu'il y a toujours un espace de conversion qui est laissé, puisque les châtiments qui sont envoyés ne touchent qu'une partie de l'humanité. Alors ça, c'est le premier septénaire, donc il court, donc c'est le septénaire des sceaux, c'est le premier septénaire, il court du chapitre 6, évidemment, jusqu'au chapitre, alors que je ne me plante pas, c'est le chapitre 8, c'est ça? Oui, le 8 et le 7e sceau. Donc c'est sympa, les 7 sceaux, ça reste gentil. Hein, on peut, tout le monde peut lire ça, ça reste gentil. Et les sanctions sont des sanctions relativement ambiguës, puisque c'est des sanctions classiques, l'épidémie, la guerre, la famine. Donc c'est des trucs, vous voyez, n'importe qui peut contester ça, c'est pas très surnaturel. Quelqu'un peut vous dire, ben, vous me dites que l'épidémie ou la guerre ou la famine, c'est Dieu qui est en train de nous avertir en disant, faites gaffe, on touche à la fin. Il y a plein de gens qui peuvent dire, mais pas du tout, des guerres, il y en a déjà eu, même pire que ça, des épidémies, il y a eu la grande peste. Donc, vous voyez, c'est des signes encore assez ambigus. On arrive au septième sceau, alors là, on dit, on est au taquet, on dit, ben, ça y est, il y a l'éveil des sept sceaux, on arrive à la fin. Et là, en bon metteur en scène d'un film d'aventure, il y a un truc, un trick, comme disent les Anglais, pour relancer la machine. Et donc, il se fit en silence environ une demi-heure, c'est-à-dire en gros, c'est l'entracte. Revenez, il y a un deuxième acte. Alors, on n'était pas au courant, et donc, on se dit, bah, donc, on ne va pas savoir tout de suite la fin. Notre attention est aiguisée. Et voilà qu'un deuxième septénaire arrive, qui est déclenché par le septième sceau. C'est le septénaire des trompettes. Mais le septénaire des trompettes nous parle exactement de la même chose que le septénaire des sceaux. Donc, l'erreur, c'est quand on dit, ben, c'est la suite de l'histoire. Non, non, alors là, il y a plein de contradictions. On dit, mais c'est bizarre, on nous a déjà parlé d'un jugement, on avait l'impression que c'était arrivé, et puis brusquement, il semble avoir oublié qu'il nous a déjà raconté. Non, le deuxième septénaire, c'est la même chose, mais plus précis. Notre intelligence est aiguisée, on va être capable de décrypter des signes qui sont plus fins. Alors, les signes des trompettes, dans le septénaire des trompettes, lui, il court en gros de 8-6, en mettant au chapitre 8, parce que le septième sceau, c'est à peine un sceau, hein, il sert juste à déclencher les trompettes, le septième sceau. Donc, les sept trompettes, ça court du chapitre 8 jusqu'au chapitre 11. La grande différence, c'est que il y a deux grandes différences par rapport au premier septénaire, c'est que les châtiments, parce que Dieu est amour, mais qui aime bien châtie bien. C'est ça, quand même, ça. Et les châtiments sont beaucoup plus colorés par les plaies d'Égypte. Et ça, c'est très important pour la théologie sacramentelle de l'Apocalypse, puisque l'agneau, on comprend la christologie de l'agneau quand on comprend que puisque l'agneau, Jésus, c'est l'agneau immolé, qui il est qualifié comme agneau au ciel, et que le cantique nouveau qui chante au ciel, c'est la même chanson qu'on a sur la terre. Quand vous êtes en train de chanter à la messe le cantique de l'agneau, vous avez le bénéfice que l'agneau donnait à Israël dans la première Pâque, c'est-à-dire que vous échappez aux plaies. Donc c'est très important que les plaies eschatologiques, ça soit les mêmes, mais en plus fortes, ça soit les mêmes plaies, c'est-à-dire la grêle, il y a de la grêle avec du feu, il y a de l'eau, de la ténèbre, il y a l'eau qui est changée en sang. Alors d'abord en pastis, ça c'est une plaie que je trouve très sympathique, on me dit que ça vient de l'absinthe. En plus c'est bien dosé, parce qu'il y a un tiers absinthe, deux tiers d'eau. Je ne comprends pas que les fabricants de pastis ne joue pas sur cette image, mais après ça devient du sang. Alors ça, c'est moins marrant à boire. Hein. L'absinthe, en fait, c'est très amer. Ça fait allusion au marais. Je rigole hein, en disant que c'est du pastis. Hein. En fait, l'eau devient imbuvable, hein, donc c'est quand même une plaie. Hein. Mais donc, vous voyez, toutes ces plaies, les plaies eschatologiques reprennent les plaies d'Égypte, parce que du coup, et ça nous fait comprendre que notre communion à l'agneau dans la liturgie va nous faire traverser comme une fleur les plaies eschatologiques. Alors ça, c'est nouveau, les plaies, la coloration pascale des châtiments eschatologiques, ça n'apparaît que dans, c'est assez clair dans le deuxième septénaire, c'est pas du tout dans le premier septénaire, c'est que dans le deuxième septénaire. Vous voyez, c'est plus fin, c'est plus subtil, c'est là où on comprend le rapport entre la christologie de l'agneau, et on se dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr, voilà pourquoi il nous fait contempler le Christ comme un agneau, parce que les plaies eschatologiques, c'est celles d'Égypte. Et deuxième élément de nouveauté, c'est la dimension prophétique. Alors ça, c'est les deux témoins, ça reprend Zacharie, les deux Oliviers. Bon, je ne peux pas rentrer dans les détails, je le regrette, parce que plus je bosse l'Apocalypse, et plus je me dis, c'est le livre le plus génial de la Bible. C'est vraiment prodigieux. Enfin, je dis ça à chaque livre de la Bible que j'étudie, moi. C'est vrai au moment où je le dis. Les deux témoins, en fait, ils sont là pour dire à l'Église, vous êtes persécutés, mais vous gardez, comme Église persécutée, une vocation prophétique telle qu'à un moment donné, vous allez déguster, vous allez mourir, mais vous allez ressusciter. Et c'est ça, en gros, qui vous permet de suivre l'agneau partout où il va, c'est-à-dire d'être martyr comme lui, et ensuite de partager son autorité sur la terre, dans le millénium. C'est-à-dire, il y a une théologie du martyr qui est très forte dans l'Apocalypse. C'est une théologie prophétique. C'est-à-dire que si vous fermez votre gueule pour qu'on vous foute la paix, ce qui est la tentation, dans un monde hostile, ben vous ne serez pas martyr et du coup, vous ne suivrez pas le Christ. Et ce n'est pas bien. Donc, vous voyez que c'est important dans le deuxième septénaire. On ne l'avait pas dans le premier septénaire. En gros, dans le premier septénaire, c'était gentil. On nous dit Dieu va punir les méchants et les gentils ne seront pas punis ou ils auront moins mal. Non, enfin, ils ne seront pas punis. Dans le deuxième, on a plus d'éléments. Voilà comment il va vous sauver, mais il faut que vous soyez prophète. Et puis, avec le chapitre 12, commence le troisième septénaire. Alors là, c'est vraiment plus. C'est beaucoup plus compliqué que le deuxième septénaire, qui est déjà plus compliqué que le premier. La nouveauté dans le troisième septénaire, qui est le septénaire des coupes, c'est qu'on va donner beaucoup plus de détails sur l'action, sur l'autonomie apparente, mais sans doute même réelle, des puissances maléfiques. Et on le fait de telle manière, c'est très subtil, moi je trouve ça vraiment génial, c'est que le septénaire qui est là pour vous dire, le septénaire, il est là en gros pour vous dire, quand quelque chose arrive sur Terre, c'est que le signal de déclenchement est donné par Dieu au ciel. Donc c'est une manière de dire, ce qui vous arrive est prévu par Dieu. Donc c'est une manière pour le ciel de récupérer l'espoir terrestre. Dans les deux premiers septénaires, dès qu'il y a le premier saut, il y a des événements, il y a des malheurs sur Terre, donc une guerre, si je me souviens bien, le premier cheval, oui, c'est ça, il porte un arc. Pareil avec les trompettes. Or là, au chapitre 12, on a l'impression qu'on passe à tout à fait autre chose. On va nous raconter une allégorie avec une femme qui est au désert. Bon, en fait, c'est l'Église, c'est assez transparent. Enfin, et puis ensuite, il y a une bête, alors elle est très moche, elle a des têtes, il y a un dragon, on dit que c'est l'ancien, que c'est le serpent antique. Enfin, on nous raconte toute une histoire et on n'a plus de septénaire pour nous guider. Donc on a l'impression, on peut se dire, mais mince, ça veut dire que l'histoire se déroule, elle n'est pas sous contrôle. Et en fait, le contrôle va apparaître uniquement quand est-ce qu'il arrive, ce septénaire 15, c'est ça, flûte, j'ai plus mes trucs en tête, moi. Au chapitre 15, hein, c'est ça qu'il y a les trompettes. La dernière trompette, c'est au chapitre 11, et à partir du chapitre 12, donc il y a le deuxième septénaire, mais on nous parle, ce deuxième septénaire n'apparaît littérairement qu'au chapitre 15, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Donc au chapitre 16. Donc tardivement dans le récit. Pourquoi ? Parce que ça correspond exactement à l'impression qu'on a. On a l'impression que les puissances maléfiques, représentées par le dragon, la bête et puis la deuxième bête, enfin, ouais, des trucs pas sympas, que finalement tout va bien pour eux, qu'ils ont tout pouvoir d'action et que donc c'est plus contrôlé. Et quand les coupes arrivent en chapitre 16, on dit mais en fait non. Ils n'étaient peut-être pas des instruments, des anges exécuteurs, des ordres de Dieu, comme les anges des deux premiers septénaires, mais ils sont quand même sous contrôle. Donc c'est pour ça que le troisième septénaire, il contrôle ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. Et pour ça, on a un indice, c'est qu'il y a un élément commun, c'est justement les figures du mal, notamment la bête qui représente l'Empire romain avec le chiffre de la bête. C'est le fil rouge qui nous empêche de dire qui nous oblige à lier ensemble les chapitres 12 à 15, où il n'est pas question de septénaire des coupes, et le chapitre 16, où il y a le septénaire des coupes. Donc là, c'est encore plus précis, l'élément nouveau, donc c'est c'est là où en gros on nous décrit comment les puissances mauvaises vont agir, comment les hommes vont être ou trompés ou vont résister, et comment la puissance mauvaise va être jugée, et comment la nouvelle terre et les nouveaux cieux vont arriver. Donc c'est le plus important, enfin, ça c'est clair, les septénaires sont de plus en plus importants et lourds d'enseignement. Alors, donc vous lirez ça. Le jugement, c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est 17-18, c'est le jugement, la chute de Babylone, C'est Rome. Alors là, moi, je ne peux pas rentrer dans les. Il y a même une interprétation, ça c'est passionnant à voir, avec les sept têtes de la bête qui correspondent aux empereurs de celui qui suit la résurrection du Christ, parce que ça correspond à la chute du dragon sur la terre. Donc c'est là que l'empire romain devient mauvais avec le premier empereur qui a suivi Tibère. C'est là qu'il devient vraiment un instrument du dragon. Et puis ensuite, il y a une allusion à une légende sur Néron. Enfin, il y a des tas de trucs fascinants, mais je ne peux pas rentrer dans les détails. Babylone tombe, puis la bête. Donc, Babylone, c'est la femme, la prostituée, puis la bête qui est le pouvoir politique aux mains du démon, puis le dragon, mais ils sont enchaînés pour un temps. Et là, au chapitre 20, c'est ce truc fascinant du millénium, où l'auteur de l'Apocalypse, sur la base de Daniel 7, il dit, puisque on a morflé sur la terre, si on meurt martyr, on ne va pas que recevoir une consolation céleste, il faut qu'il y ait une espèce de compensation terrestre. Et donc, on va régner avec le Christ sur la terre, mais ce n'est pas encore. Comment dire, c'est pas l'eschatologie, c'est pas le jugement dernier, si vous voulez. C'est quelque chose de très spécial. Alors bon, on a du mal à comprendre, mais donc, et il y aura même un sacerdoce réservé à ces martyrs-là. Et puis ensuite, le démon qui était enchaîné dans le millénium, c'est vraiment génial parce que c'est le ciel sur la terre, si vous voulez. Donc il n'y a pas de mal, tout va très bien pour l'Église, ça va vraiment formidablement bien, mais c'est pas encore la fin du monde. Pour que ça soit la fin du monde, on va relâcher le dragon, il va rassembler ses armées, et là, en inversé, alors là, vraiment, il n'y a pas de détails pour satisfaire notre curiosité, on nous dit, il est défait, c'est le verset 29, si je me souviens bien, mais alors, on ne dit rien, en fait, on ne décrit pas la bataille, on dit, mais il est défait par le Christ, et là, il est jeté dans l'étang de soufre de feu pour l'éternité des éternités. Donc, cette fois, définitivement, le dragon est vaincu, et puis 21-22, vous avez la Jérusalem céleste. Bon, je suis ridicule, j'avais dit que je ferais un quart d'heure. 3 quarts d'heure, j'ai fait plus d'1 heure, je suis désolé, c'est lamentable. Bon, allez, s'il y a encore des gens, il n'y a plus que 2 personnes, c'est ça? Ah non, il y en a 19, 2, c'est ceux qui conversent. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent, s'il y a des questions, je suis prêt à répondre à vos questions, si vous n'êtes pas dégoûté de l'Apocalypse.
Robert,
Quelle histoire! Oui.
moi je me suis toujours demandé ce que veut dire le passage sur les figues qui ne sont pas mûres. Enfin, est-ce qu'il y a une interprétation
Alors, oui, ça c'est, je ne sais plus dans quel septenaire c'est le deuxième, hein, ça c'est les trompettes, non?
Je ne sais plus où c'est,
Bien
mais
aussi, c'est
elle
les
projette les
trompettes.
figues pas mûres sur la terre. Un truc comme ça. Enfin...
Là.
Je peux
C'est où cette
chercher.
histoire? Non, non, mais je vais trouver, enfin. C'est une des plaies, hein, en gros, enfin en tout cas,
Ouais.
c'est un. Un des châtiments. Si quelqu'un là, il a le droit de me le dire.
6-13.
Ah, alors c'est dans le premier septenaire, autant pour moi. C'est encore gentil.
Ah
Gna,
non, ok, non, pardon. Ok, en fait, c'est lié aux étoiles. Ok,
les
en fait,
étoiles
c'est le
du ciel
démon.
tombèrent. Ah oui, alors si, c'est intéressant parce que, oui, j'aurais dû vous le dire, pardon, mais en fait, dans les 7 premiers sceaux, les 4 premiers, c'est des plaies historiques. Ça correspond aux 4 vivants d'ailleurs. Donc, ça correspond aux 4 vivants, donc c'est encore enserré dans l'ordre de la création. Ensuite, le cinquième sceau, ça, c'est les martyrs qui sont sous l'autel et qui disent à Dieu, tu nous oublies, nous, on a morflé dur, et puis les méchants sur terre, d'accord, tu leur envoies la guerre, la peste et la famine, mais enfin, c'est pas, ils sont quand même très contents. Jusque à quand tu nous feras justice? Donc le cinquième sceau, c'est les âmes des martyrs qui appellent à la vengeance de Dieu. C'est pas très politiquement correct, hein, l'Apocalypse. Dieu, il est méchant dans l'Apocalypse. Hein. Enfin, en tout cas, il est méchant avec les méchants. Il y a vengeance. Il y a appel à la vengeance. Et le sixième sceau, c'est la. Alors, on leur dit, calmez-vous, les mecs. Il leur fut donné à chacun une robe de blanche. On les fait une robe blanche. Je trouve ça super marrant, en fait, l'Apocalypse. Pour la faire patienter, donc, on leur donne une robe blanche. C'est-à-dire, en gros, on leur dit, les gars, vous allez bientôt être prêtres. On vous donne déjà. La robe, on vous donne déjà l'aube, bientôt vous allez célébrer la messe. En fait, c'est quelle messe? C'est la messe du millénium, hein. Puisque tous ces mecs-là, c'est ceux qui vont ressusciter une première fois au chapitre 20 dans le millénium. Mais on leur dit de patienter encore un peu. Et en fait, ils patientent très peu de temps parce que le sixième sceau, c'est plus du tout des plaies historiques comme les 4 vivants, c'est vraiment ça reprend le langage eschatologique qu'on a notamment chez Isaïe dans la petite Apocalypse, la grande Apocalypse. C'est-à-dire que là, ça correspond plus, on peut plus, c'est plus des guerres et de la famine. C'est indescriptible. Alors, le soleil devient noir, les étoiles du ciel tombent. On ne peut pas le prendre au pied de la lettre. C'est le renouvellement entier du cosmos. C'est pour ça qu'une fois qu'on a lu le sixième sceau, en bonne logique, on se dit, il n'y a rien après. Parce que c'est le jour du Seigneur. Après le jour du Seigneur, c'est le jour dernier. Et c'est vrai, c'est déjà le jugement dernier au sixième sceau. Alors là, c'est l'image, les étoiles du ciel tombent sur la terre, donc ça reprend Isaïe 34, avec une comparaison, comme les fruits verts d'un figuier battu par la tempête, les figues vertes, elles sont peut-être plus fragiles, le figuier, donc tout tombe. Alors l'idée, c'est qu'il y a une déception. Les hommes de la terre attendaient quelque chose de la création, et le jour du Seigneur est arrivé plus tôt que prévu. C'est ça l'idée de la comparaison. Vous voyez, ça nous prend un peu par surprise, hein. Vous voyez, ce n'est pas du tout Teilhard de Chardin hein, non plus, hein, l'Apocalypse. Ce n'est pas du tout le fait qu'il faut attendre que la création arrive à un certain degré de perfection pour que, comme la cerise sur le gâteau, Jésus vient dans sa parousie comme une fleur. Pas du tout. Hein. On est en train de préparer des trucs. On attend que ça donne du fruit. Et en fait, comme les figues, on est encore à l'état des figues vertes. Et voilà que Dieu secoue sa création. Et quand il secoue sa création, ben, les astres tombent sur la terre. Bon, c'est du langage imagé, hein, c'est loin, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Hein, et vous voyez ce que. Donc, bien distinguer le langage des quatre premiers sceaux du langage du sixième sceau. Les quatre premiers, c'est historique, et le sixième, c'est eschatologique. Est-ce qu'il y a encore une question? Très bonne question, Ombline.
Bonjour mon père, moi j'avais une question sur. En fait, on m'avait dit une fois qu'il y avait une allusion dans l'Ancien Testament au fait que les anges. Des enfants avec les hommes. Et j'ai attends, jamais vérifié.
La connexion est mauvaise. Redis, la connexion est très mauvaise.
Vous m'entendez?
J'ai l'impression que tu es sur la Lune. J'ai l'impression que c'est Houston qui me parle. Enfin, c'est Houston.
Là, je vais mettre tes écouteurs. Là, c'est bon.
Alors, vas-y. Je
vous
t'écoute.
Pas très bien. En fait, c'est qu'on m'avait dit. On m'avait dit une fois que dans l'Ancien Testament, on disait que les anges faisaient des enfants avec les hommes.
Oui,
c'est Genèse. Je me demandais si c'était juste.
C'est
bien dans la Genèse qu'on a gardé.
C'était les veilleurs.
Ok, je croyais que c'était que dans les trucs apocryphes. Ok.
Ah non, c'est-à-dire
que. Et du coup, ça, c'est dans.
En Genèse, c'est très bref, c'est quatre versets, et c'est là, en gros, pour nous expliquer pourquoi est-ce que Dieu va faire la grande lessive avec Noé. Pourquoi est-ce qu'il va tuer tout le monde? Sauf Noé et les poissons. Parce que, encore une fois, c'est difficile de noyer les poissons. Mais on ne va pas du tout broder. Par contre, dans les écrits, évidemment, hein, un truc un peu bizarre comme les anges avec les filles des hommes, les filles de Dieu avec les fils de Dieu avec les filles des hommes, on se dit, mais à quoi ça peut correspondre? Ça, c'est très juif. Quand il y a des passages, et très chrétien aussi, quand il y a des blancs dans le récit, quand il y a des incohérences, quand il y a des contradictions, c'est ça qui suscite l'imagination. Donc, la plupart des midrashim, la plupart des écrits apocryphes, juifs comme chrétiens, en fait, ils ne vont pas se greffer sur des trucs où tout va bien, quoi, où il suffit de lire pour comprendre. Ils vont se greffer sur des difficultés. Donc, ce n'est pas du tout évident, pas du tout étonnant que Genèse 6 ait donné lieu à tellement de brodages, de broderies dans les écrits apocryphes. Donc, c'est les veilleurs. Hein. C'est ces pauvres veilleurs donc, à qui Dieu ne pardonne pas. Il n'y a pas d'arcum pour les veilleurs. Tiens, c'est un bon titre de roman, ça. Si un jour j'écris un roman noir, le titre, ça ne sera pas d'Arkoum pour les veilleurs, avec une discrète allusion à Rabbi Jacob et au premier livre d'Enoch. Est-ce qu'il y a encore une question?
Mon père, au chapitre 10, qu'est-ce que c'est le petit livre qui est avalé par Jean?
Ah, alors, c'est pas, attention, hein, bonne question encore. C'est pas la même. Le livre le plus important, c'est celui-là du chapitre 4-5, hein, c'est l'Ancien Testament. Ça, c'est un autre livre. Ce n'est pas non plus le livre de vie, celui-là. Ça, c'est un autre livre. C'est tiré, en fait, d'Ézéchiel. Alors, je dois avoir la référence dans ma note. Je ne le trouve plus. Là, évidemment, on ne trouve jamais les choses quand on les veut. C'est où, cette histoire-là? Prends le livre ouvert. C'est verset 8. Ézéchiel 3.3, oui, si, pardon. Ça, c'est au moment où... c'est un peu comme introduction à la fonction prophétique de l'Église, puisqu'on est dans le deuxième septénaire. Vous vous souvenez que un des éléments nouveaux, c'était le témoignage prophétique que l'Église persécutée doit rendre et qui est concrétisé par les deux oliviers. Or, Ézéchiel, c'est ce qu'il entend. C'est ce qu'il entend donc quand il doit prophétiser à Jérusalem sur le point d'être détruite par les Babyloniens, puisqu'Ézéchiel s'est écrit entre la première déportation et la destruction de Jérusalem, entre 597 et 587. Et la thèse d'Ézéchiel, c'était que ce petit délai avait été donné notamment aux prêtres de Jérusalem. C'était un ultime délai de conversion pour éviter la destruction de Jérusalem. Ils avaient 10 ans pour se convertir, et au lieu de se convertir, ils ont fait encore pire. Et alors, Ézéchiel doit aller prophétiser, et ce qui va l'inspirer, c'est ce petit livre. Alors, qui représenterait, pourquoi pas, les prophètes antérieurs? Donc, c'est pas impossible. Déjà, chez Ézéchiel, il y a l'idée que la prophétie, elle est passée du statut oral au statut écrit, au moins partiellement écrit.